Donc s'il y a une fête en ce moment à laquelle on ne peut pas échapper, hein, c'est bien fait de Noël. Hein. On n'était pas un dimanche, mais on a su que dans ce lieu-là, vous avez fêté Noël déjà. Vous avez associé beaucoup d'enfants du quartier étaient là. Ouais, c'est bien. Et donc il y avait un témoignage à donner là. Aujourd'hui, ben, c'est l'église de Dieppe, Marc est parti à Dieppe, il fête Noël aujourd'hui. Bon, ils ont invité, fait des invitations. Bon, le message de la bonne nouvelle du salut va être proclamé. Prions que les cœurs soient touchés. Et dimanche, dans notre dimanche, il y aura un culte spécial. Et dimanche, c'est le monde entier qui fête Noël. Il y aura un culte spécial à midi. Hein. Bon. Alors, on pourrait se dire, ben, tout le monde, on fête Noël quand on veut maintenant. Hein. Dimanche dernier, aujourd'hui, dimanche prochain. Ben, vous savez très bien que de toute façon, Jésus n'est pas né un 25 décembre. En fait. Et même si on réalise la portée de la venue de Jésus donc à Noël, pour nous, c'est Noël tous les jours. Hein. Ça me rappelle, il y a un chant que j'aimais bien chanter, moi, un certain John Littleton. Hein, je ne sais pas si vous l'avez chanté dans le temps, ça remonte à pas mal d'années. Il disait, hein, les paroles du chant, c'était « C'est Noël dans ton cœur chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. En » fait. Et c'est vrai. Quand on réfléchit, on peut fêter Noël tous les jours. Et qui dit Noël, ben, en fait, dit la fête, dit manifestation de joie et dit décoration. Et quelle est la décoration sans laquelle Noël ne serait pas Noël? D'après vous, le sapin. Le sapin, eh oui, le sapin. Hein? On voit partout, dans les rues, les vitrines. Là, il y a même, c'est pas un vrai, mais il y en a un là. Hein? Et je dirais que le sapin, il est même tellement important qu'on dit même le sapin de Noël. Il a acquis ses lettres de noblesse, vous voyez. Hein? Et on en cultive même des spéciaux. Hein? Vous connaissez la variété Norman, hein? Qui est mieux que l'épicéa parce qu'elle perd moins vite ses feuilles. Et donc, vous savez, on vient le voir de partout. Hein? Dans certaines villes, c'est la fierté. Que serait le marché de Strasbourg sans son grand sapin, hein, de 30 mètres, hein, qui a 70 ans d'âge. Plus de 7 tonnes et demie, bon, oui, incroyable. Donc, oui, le sapin. Et pourtant, alors nous, on pourrait se dire, est-ce que nous, en tant que chrétiens, Noël, c'est la naissance de Jésus, est-ce qu'on peut décorer un sapin? Est-ce qu'on peut hein, donc exhiber comme ça hein, un sapin décoré? Est-ce que c'est pas un peu se rendre hein, idolâtre, le culte de l'arbre, comme certains le reprochent d'ailleurs, un certain mouvement sectaire? Et en plus, quand on sait que Noël, hein, remplace une fête païenne. Vous savez que le 25 décembre, c'était une solstice d'hiver, on fêtait la renaissance du soleil. Et donc, à cette occasion, il y avait un arbre, effectivement, qui était dressé, qu'on décorait avec des fleurs, des fruits, des légumes. Bon. Alors, est-ce que, effectivement, ce sapin a sa raison d'être? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas ni vous inciter, ni vous dire de ne pas décorer un sapin, non, c'est pas ça. Mais mon propos ce matin, c'est à partir de ce symbole du sapin, nous laisser interpeller par la parole de Dieu hein, sur la réalité de notre vie chrétienne et du témoignage qu'on a donné. Vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Et j'ai intitulé ce message « Mieux que des sapins de Noël » et en sous-titre « Une plantation à la gloire de l'Éternel ». Alors, à quand remonte cette mise en scène des sapins à l'occasion de Noël? Je ne vais pas vous faire tout l'historique, hein, vous savez, c'est très long, et puis des fois les avis sont divergents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en trouve une trace intéressante, déjà au Moyen-Âge. Vous savez que sur les parvis des cathédrales, on donnait ce qu'on appelait des mystères sacrés, et c'était donc une évocation à la fois narrative et figurative des grandes fêtes chrétiennes. Entre parenthèses, quand on pense à ces cathédrales, déjà, en tant qu'édifice, quelle foi avaient nos ancêtres? Quand on pense les années qu'il a fallu pour construire toutes ces cathédrales, qui sont toujours là d'ailleurs, admirables, quand on pense qu'effectivement, bon, elles étaient pleines, et il y avait donc ces représentations, on est un petit peu nostalgique parfois. Prions que notre pays retrouve un peu ses racines chrétiennes, ses traditions. Bon. Et quand je pense que, bon, on n'a même plus le droit de montrer une crèche dans certains édifices publics. Alors, moi, ça m'amuse parce que vous allez dans une mairie, on va vous faire un document officiel, on va mettre le tampon daté 2017, bientôt, ou 2016. Mais depuis que Jésus est venu, bon, en fait, c'est implicite. Ah, mais, ah non, rappelez pas sa venue. 2016. Voilà. Bon, vous voyez, donc, bon, enfin, c'est d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Donc, à l'époque, on produisait donc des sortes de pièces de théâtre, c'était vivant. Et vous pensez bien que pour Noël, il y avait donc cette crèche avec l'âne de bœuf, des personnages vivants, et de chaque côté de la crèche, il y avait un sapin. Et au bout du sapin, l'étoile, l'étoile qui rappelait l'étoile de Bethléem. Alors pourquoi ces deux sapins ? C'est simplement pour donner le sens de Noël. On voulait montrer qu'à Noël, Jésus était venu pour nous mettre en paix avec Dieu, qu'on ait le pardon de Dieu, donc effacer nos péchés, et permettre effectivement de retrouver cet arbre de vie qu'Adam et Ève donc, avaient perdu par leur désobéissance. Donc il y avait un arbre qui représentait l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'Éden, paradis terrestre, et l'autre qui rappelait l'arbre de vie dont il est parlé dans l'Apocalypse, dans la Jérusalem céleste. Et entre ces deux arbres de vie, la crèche, Jésus est venu pour donc, nous permettre de retrouver l'accès à cet arbre de vie qui avait été perdu, et en profil derrière la crèche, il y avait la croix de Jésus. Ça veut dire qu'avec deux sapins, une crèche et la croix, tout était dit, en fait. Toute l'évangélisation, je dirais, a été résumée par quelque chose de très vivant, de très visible. C'était, je dirais, comme on ne lisait pas beaucoup la Bible à l'époque, mais tout était dit. Et donc, le sapin représentait l'arbre de vie. Pourquoi ? Parce que qui dit arbre de vie dit immortalité, immortalité, vie éternelle. Et comme c'est un arbre, vous savez, à feuilles persistantes et non pas caduques, on a l'impression que, eh bien, il y a toujours de la sève dans les branches, et donc l'arbre ne meurt jamais. Donc il y avait ce symbolisme. Pourquoi le sapin ? Parce que c'était un arbre, effectivement, à feuilles persistantes. Bon. Alors, prenez avec moi vos Bibles. Parce qu'on ne parle pas de sapin dans la Bible, mais on parle de l'arbre de vie. On en parle dès la Genèse, et on en parle de l'Apocalypse. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi, déjà, Genèse, chapitre 2. Il est mis au verset 9. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, il y avait au milieu donc, du jardin d'Éden, l'arbre de la vie, et qui déjà, je dirais, auquel Adam et Ève avaient accès, ça veut dire qu'ils pouvaient manger de cet arbre, donc ils ne devaient pas mourir. Mais en plus, il y avait quand même ce côté, pour avoir la vie, il fallait manger les fruits, il y avait quand même une dépendance par rapport à Dieu qui avait planté l'arbre, là, si vous voulez. Bon. Et, à l'inverse, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on pourrait appeler l'arbre de la mort, puisqu'ensuite, on sait que s'ils goûtaient à cet arbre, il y avait la sanction et la sentence de mort. Dieu avait dit, donc c'était désobéir d'une part un ordre de Dieu. Cet ordre, on l'a d'ailleurs quelques versets plus loin. Verset 15, il est mis, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et en plus, donc, c'était désobéir, c'était vouloir prendre la place de Dieu, décider de ce qui était bien ou mal, bien sûr, et c'était s'exposer à la sanction de mort. Si on voulait jouer sur le mot, on pourrait déjà dire, mais là, bon, mais c'est un peu d'humour, je plaisante. Le rapport entre l'arbre de vie et le sapin, c'est que si vous êtes coupé de l'arbre de vie, vous pouvez dire ça sent le sapin. Bon, quand on dit ça sent le sapin, c'est la mort. Bon, mais c'est pas biblique, ça. On dit ça pourquoi ? Parce que beaucoup de cercueils étaient faits en sapin, bien sûr. Bon, mais oui. Je me suis posé la question, en quel bois était fait la croix de Jésus ? C'est intéressant de poser la question. Il y a eu des recherches de fait, tout ça. Bon. Mais en fait, je vais vous décevoir, on ne sait pas. Bon. Exactement, en bois d'arbre, ce que j'allais dire. Bon, alors donc, quelles sont les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève ? Eh bien, vous lisez un peu plus loin, donc Genèse 3. Verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamme voyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, on a compris, l'homme a perdu accès à l'arbre de vie et toute possibilité d'y revenir. Donc, il va connaître la mort physique, et aussi la mort spirituelle, puisqu'il est chassé de la présence de Dieu. Vous prenez votre Bible maintenant, Apocalypse, tout à fait à la fin, Apocalypse 2, verset 7, c'est Jésus qui parle à l'église d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, on retrouve l'accès à cet arbre de vie. Ça veut dire que les conditions qu'ont connues Adam et Ève nous sont à nouveau accessibles. Et si on y réfléchit, ça sera même beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'Adam et Ève, quand on lit donc la Genèse, on voit que Dieu se promenait avec eux, hein. Il parlait librement le soir, donc hein, à la tombée du jour, là, hein, Dieu se promenait dans le jardin, il parlait avec Adam et Ève. Il y avait cette relation. Adam et Ève, effectivement, n'avaient, je dirais, aucun besoin, en fait. Ils admiraient la nature, il n'y avait pas de souci, tous leurs besoins étaient pourvus. Ils ne pensaient même pas à la mort, puisqu'ils ne mourraient jamais. En fait, tout était, hein, pour le mieux, dans le meilleur des mondes, ça aurait dû durer, en fait. Nous, ce sera encore mieux. Pourquoi ? Parce que nous, on connaît l'intensité, la grandeur de l'amour de Dieu. Adam et Ève ne l'imaginaient pas, pour eux, c'était normal, quelque part. Nous, on sait maintenant que Dieu, malgré notre désobéissance, Dieu a fait de nous ses enfants, hein, et a envoyé Jésus. Donc, en fait, nous, on connaît la grandeur de l'amour de Dieu. Nous, ça sera encore mieux, quelque part. Et donc, on lit un peu plus loin, donc Apocalypse, donc, dernier chapitre, qui termine la révélation, chapitre 20, donc 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et même si vous regardez verset 14, un peu plus loin, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc il s'agit de la Jérusalem céleste. Donc Jésus est venu pour nous permettre de retrouver donc, l'accès à la présence de Dieu et les conditions que connaissait Adam et Ève. Donc on voit, il y a une symbolique très forte. Tout part de l'arbre de vie dont on a perdu l'accès par la désobéissance et Jésus qui est venu pour nous permettre à nouveau d'accéder à ce paradis, cette présence de Dieu et à l'arbre de vie. D'accord. Et donc c'est quand même important, parce que je vous dis, qui dit arbre de vie, c'est vraiment une vie, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est une vie bon, qu'on ne peut pas imaginer, c'est une vie en abondance, c'est pas simplement la vie physique, c'est cette relation, cette communion avec Dieu, c'est tout ce que ça implique. D'accord. Et Adam et Ève auraient bien fait d'être sages et d'écouter la recommandation que Dieu leur avait faite, parce que si Dieu leur avait interdit, c'était bien parce que Dieu connaissez les conséquences. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Bon. À leur décharge, effectivement, eux, ils ne connaissaient pas le livre des Proverbes, ni le livre de la sagesse, bon, où, dans lequel on peut lire, effectivement, la sagesse est un arbre de vie, pour ceux qui s'attachent à elle, l'enseignement du sage est une fontaine de vie, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, ça veut dire que s'ils avaient su, ils auraient été sages, c'est-à-dire ils auraient craint de déplaire à Dieu, ils auraient obéi, et effectivement, ils se seraient épargnés, et nous par voie de conséquence, et la souffrance et la mort. Bon, c'est vrai. Donc, merci Jésus d'être venu. Merci d'être venu, nous, sortir du pétrin, il dirait quelque part, d'avoir rouvert à nouveau ce chemin qui nous permet d'accéder donc, à la communion avec Dieu. Et je dirais surtout d'avoir redonné sens à notre vie. Vous savez qu'il est mis en Colossiens 1, verset 16-17, vous savez que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et vous savez que, on le dit toujours, un verbe donne tout le sens à sa phrase. Une phrase sans verbe n'a pas de sens. Le monde créé par Dieu sans Jésus n'a pas de sens parce que Jésus, c'est le verbe de Dieu, la parole qui s'est incarnée. Donc c'est quand même important. Ça veut dire que si Jésus n'était pas venu dans ce monde, on vivrait dans un monde qui n'a pas de sens. Bon. Rappelez la venue de Jésus à Noël, comme on le fait, c'est rappeler à chacun que, ben oui, Jésus est venu donner un sens à notre vie. Et paradoxalement, vous avez le monde entier qui fête Noël, la majorité des gens, on fait référence à tout le monde, sauf à Jésus. Hein. Ah oui, ça c'est le paradoxe. Bon, je ne parle pas du monde chrétien, heureusement, mais après, hein, qui n'est pas majoritaire. Donc, à ça, le Père Noël, tous les enfants connaissent. Mais combien connaissent l'histoire de Jésus? Ben, de moins en moins. On en parle aussi peu, en tout cas, sûrement pas assez, d'accord. Bon, alors, à défaut de crèche, évidemment, donc il nous reste le sapin. Bon, alors, là, le sapin, vous l'avez trouvé partout. Ah, ben, on va faire parler le sapin, alors. Hein? Qu'est-ce qu'il peut évoquer pour nous? Donc, j'ai déjà dit, un arbre qui ne perd pas ses feuilles symbolise l'immortalité, la vie éternelle. Donc, et il est bon, effectivement, de nous rappeler qu'on vient au monde, mais que notre vie, elle ne s'arrêtera pas. Hein? On vient sur cette terre pour une vie éternelle, en fait, qui sera avec Dieu ou sans Dieu, bien sûr. Ça veut dire que le passage sur terre n'est pas la destination. On le sait, mais il faut peut-être le rappeler quand même des fois, même aux chrétiens. Est-ce que vous êtes déjà... oui, vous êtes arrivé à prendre l'avion, quoi. Alors imaginez, nous demain, ce sera notre cas. On part en Floride demain, 3 semaines, on va passer avec les petits-enfants, on est heureux, bien sûr. Colette, elle apprend toujours les escales, enfin, pour ça. Alors, imaginez-vous, vous êtes avec nous dans l'avion, là, vous savez comment ça se passe. Hein. Bon, les gens sont contents, en général, ils partent en voyage, bon, on s'occupe, on lit, on regarde un film, on fait des jeux, bon, il y a l'hôtesse qui vient, là, vous voulez quelque chose, hein, bon, c'est sympa, quoi. Alors imaginez qu'un seul coup, il y a la voix du commandant qui vous dit « Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer que, eh bien, hein, ce vol est désormais votre destination finale, il n'y aura pas d'atterrissage. Cet avion, à partir de maintenant, est votre domicile et nous vous souhaitons bon voyage. » Imaginez, réaction. Bon, et oui, hein, tout le monde irait dans le cockpit et on obligerait le pilote à atterrir parce que on est dans l'avion, mais on n'y est que en vue de... Bon. Hein, donc, eh ben, à la mort, on quitte notre corps, c'est vrai, qui est le véhicule, quelque part. Hein, bon, on a ces images encore il y a un mois, il y avait encore ces astronautes là, qui sont partis avec d'autres Français, là, hein, Thomas Pesquet, là, qui nous envoie régulièrement des visages, des images, je dirais, de la planète Terre vue d'en haut, c'est beau. Mais lui, il est là. Bon, on sait que la capsule, à un moment, la fusée qui largue la capsule, se détache de la fusée et les astronautes sont un peu denteur. C'est vrai. Ils vivent quelque chose d'étonnant, mais pour eux, ça va durer un temps déterminé. Ils font des expériences. Nos astronautes vont revenir au bout de 6 mois, ils reviennent sur Terre. Bon, ils sont pas là à vie non plus là-haut. Bon. Mais si on prend l'image de cette fusée, hein, qui largue la capsule, bon, on est un peu, nous, notre corps, c'est un peu la fusée, puis un beau jour, on quitte notre corps, on est hors du temps, de l'espace. On est dans l'éternité. Mais est-ce avec Dieu ou sans Dieu? Et c'est là que, encore, merci Jésus d'être venu nous donner la possibilité de passer l'éternité avec Dieu. Hein, c'est quand même important, ça. Jésus avait dit, je vais vous préparer une place, lorsque je vous aurai préparé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Donc Noël, c'est une porte qui nous ouvre destination, éternité, avec Dieu. Bon, on le sait, mais il faut se le rappeler, parce qu'il faudra le rappeler à ceux qui ne savent pas non plus. Bon. Donc la présence du sapin, elle est bienvenue, elle nous rappelle éternité. D'accord. Et à condition. Parce que si vous décorez un sapin qui est découpé, mettez en votre salon, au bout de... en janvier déjà, si c'est un épicéa, ça va encore aller plus vite. Il va commencer à perdre ses aiguilles. Hein. Dans le temps, avec les moquettes, c'était galère un peu. Hein. Bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de moquettes, et puis on a des sapins qui perdent moins vite leurs feuilles. Non, bon, je... bon. Mais à une condition, il faut qu'ils soient racinés, si vous voulez pas qu'ils perdent ses feuilles. Et souvent, on a des sapins qui ont été coupés, donc leur durée de vie, c'est un mois ou deux. Bon. La vie d'un arbre, elle ne dure que si cet arbre est bien enraciné. Et là, on a une illustration de ce que dit la parole de Dieu. À propos des arbres verdoyants, et je suis sûr que vous avez déjà pensé, avant que je l'ai cité, au psaume premier d'ailleurs, qui nous dit, donc, heureux, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, etc. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, parce qu'il est enraciné et près d'un courant d'eau. D'accord. Si vous lisez Jérémie, hein, je l'ai noté, hein, vous pourrez vérifier, prenez la référence si vous voulez, Jérémie 17, 7, 8, Dieu dit exactement la même chose par la bouche de son prophète. Béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant les années de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. Donc notez encore, comme pour l'arbre de vie, il est fait mention, donc, feuillage vert et du fruit produit. Donc on doit être, je dirais, des arbres au feuillage toujours vert et qui produisent du fruit. Et spirituellement, ça a une portée, ça. On va dépasser le côté végétal maintenant. Le feuillage, c'est quoi ? Ben, le feuillage, donc, c'est ce par quoi l'arbre est en contact avec le milieu ambiant, l'air, le soleil, etc., la pluie. Mais c'est surtout ce qui traduit la sève, la vitalité de l'arbre à l'intérieur. Un beau feuillage va traduire un arbre en bonne santé. Et pour nous, spirituellement, le feuillage, ça correspond au témoignage qu'on peut donner. Si on a la vie de Dieu en nous, elle va se manifester comment ? À travers les feuilles, c'est-à-dire à travers tout ce qu'on va montrer aux autres. Ça sera un visage souriant, ça sera des paroles douces et aimables, ça sera une spontanéité à rendre service, ça sera l'expression d'une foi, ça sera tout ce qu'on va montrer aux autres, ça ce sont les feuilles, quelque part. Voilà, il y a une vie en moi, je leur montre une manifestation extérieure, visible. Et je dirais donc, c'est tout ce que les autres voient de nous, et ça doit transpirer de joie, d'amour et, je dirais, de vie, en fait. Et nos feuilles doivent toujours rester vertes. Parce que, à l'inverse, si vous êtes un chrétien, vous êtes toujours en train de vous plaindre, jamais content, toujours en train de critiquer, toujours... Enfin bon, je passe. Attention, là, vos feuilles, elles sont en train de jaunir, vous allez perdre vos feuilles. Et qu'est-ce qui se passe quand vous perdez vos feuilles ? Ceux qui vont à côté de vous, je ne sais pas si ça vous arrive déjà, mais... si la voirie n'est pas passée par là, vous marchez sur un trottoir avec des feuilles, c'est un peu humide, vous glissez, vous risquez de tomber. Si vos feuilles, vous laissez tomber vos feuilles, c'est des œuvres mortes, c'est des mauvais témoignages, tout ça. Méfiez-vous, ceux qui sont à vos côtés vont peut-être glisser, ils peuvent chuter. Et ça s'appelle quoi ? C'est le scandale. Ne soyons pas un objet de scandale. Jésus a dit, malheur à ceux... qui scandalisent ces petits, c'est-à-dire que ceux qui sont petits dans la foi ne le faisons pas chuter parce que nous aurions un comportement, un mauvais témoignage. Vous comprenez ? Et ça, des fois, on oublie aussi. Donc, n'ayons pas de feuilles mortes, quoi. Gardons nos feuilles vertes, là. Et pensons-y aussi à ces fêtes de Noël, parce que bon, c'est vrai qu'on doit manifester notre joie, nous associer à la joie de ceux qui nous entourent. C'est vrai. Et au contraire. Manifestons notre joie. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de se compromettre non plus à la façon dont les gens du monde vont fêter Noël. On n'est pas obligé de se compromettre. Et apprendre à laisser. Bon, je ferme ma parenthèse là. Donc un bon témoignage suppose aussi d'être bien enraciné. Et l'enracinement, spirituellement parlant, c'est cette communion avec cette source de vie qui est Dieu. Et c'est aussi nos racines. Et dans quoi on va s'enraciner pour puiser la nourriture, la parole de Dieu ? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, tel un arbre qui plonge ses racines dans un ruisseau pour prendre sa nourriture, on doit nous plonger dans la parole de Dieu pour nourrir notre foi, que cette foi elle soit en bonne santé, qu'elle produise du fruit, c'est vrai, et aussi ce bon témoignage. Et l'enracinement, souvent, vous savez, je ne pense pas vous apprendre quelque chose, il a été prouvé que l'arbre va s'enraciner d'autant plus profondément qu'il est soumis, parfois, à des vents violents. Pour ne pas céder à la pression du vent, l'arbre, il enfonce ses racines, pour mieux tenir dans le sol. Et c'est quoi ces tempêtes, vents violents pour nous ? Ce sont les épreuves. Dieu va permettre souvent les épreuves qui, comme une tempête, enracinent. Sinon, notre foi, dans ce que dit Dieu, sa parole, dans ses promesses. Et il n'y a aucun risque de sécheresse, puisqu'il est dit au psaume 65:10, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Donc, il ne va jamais se trouver à sec. Et la raison, elle est simple, c'est que ce ruisseau coule du cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, sans arrêt, il va laisser échapper, je dirais, de l'amour, de la compassion, de la douceur, de la miséricorde. C'est intéressant, puisque ça vient du cœur de Dieu. Et merci donc encore, Jésus, de nous donner accès. Nous avons tout pleinement en lui, donc en Jésus. Et on ne peut porter du fruit que si on est des branches réunies au tronc. Ça, c'est l'image, elle est de Jésus lui-même. Quand il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi, vous ne pouvez porter de fruits, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, vous portez du fruit. Donc, c'est important, et un bon témoignage, un bon enracinement, communion avec le tronc, Jésus, et ensuite pour porter du fruit. Vous voyez toute la symbolique là. Et parce que un arbre en bonne santé, normalement, il va donner du fruit. Mais ça suppose d'arriver à maturité pour donner du fruit. Et ça, c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Il veut que notre foi, on l'a lu, la parole est inspirée pour donner donc, à des hommes matures. Un homme mature, c'est un homme qui produit du fruit. Un chrétien mature produit du fruit. C'est pas un chrétien qui reste au stade de bébé. Donc notre foi, elle doit grandir, doit produire du fruit. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ça, c'est, même Jésus qui le dit. Et on sait que nous, le fruit, ben, c'est essentiellement, il est produit par qui ? Par le Saint-Esprit. Vous connaissez Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour en premier, et ensuite l'amour va se manifester par la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire porter en tant que, je dirais, un arbre à la gloire de Dieu, une plantation à la gloire de Dieu, mais spirituellement parlant, donc ce sont ces fruits spirituels. Et là, nous ne laissons pas séduire par le monde aussi, parce qu'effectivement, si on mène une vie selon les critères du monde, on va devenir peut-être brillant, c'est vrai, on va en jeter plein les yeux, on va être admiré, mais attention, là on va être des sapins de Noël, là, ni plus ni moins, parce que beau à voir, bien décoré, c'est vrai, mais le sapin, il est plein de boules, mais c'est pas ses fruits, les boules. Et non. C'est factice, c'est rapporté. Les fruits du sapin, Noël, c'est quoi ? C'est les pommes de pin, C'est pas les pommes qu'on mange, Et non. Donc, il a pas à être fier des boules qu'on lui met, le sapin. Donc, soyons pas non plus des sapins fiers de tout ce qu'on nous accroche, là, de ce que le monde nous accroche. On doit être fiers des fruits qu'on porte, mais qui viennent, de cette vie qui est en nous. Et un arbre qui ne porte pas de fruits, vous savez ce qu'il mérite d'être coupé. Et là, prenez avec moi ce passage, c'est Jésus qui en parle dans une parabole. En Luc 13, à partir du verset 6, il dit aussi cette parabole, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse encore 7 années, je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Bon, on voit derrière cette parabole, patience de Dieu, il veut qu'on porte du fruit, il est patient, mais un jour, si on ne porte pas de fruit, du coup. Ça c'est la parabole que Jésus a employée. Mais Jésus a fait mieux que d'employer une parabole, un jour, et là vous prenez avec moi en Matthieu 21, un jour, il a étonné ses disciples, parce que là, il n'a pas parlé, il a agi en Matthieu 21, à partir du verset 18. Voilà. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de lui, de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent. Et vers cela furent étonnés et dire « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc on peut être étonné parce que Jésus vient pour bénir et ses disciples le voient en train de prononcer une parole de malédiction qui est suivie aussitôt des faits. Le figuier dépérit sous leurs yeux. Alors, et à travers ça, Jésus veut faire passer plusieurs leçons. D'abord, il s'adresse à des juifs religieux. Il leur reprochait finalement, vous êtes séril, donc vous êtes dépositaire des promesses de Dieu et tout, mais finalement, je suis venu à vous et vous voulez pas me reconnaître. Enfin, donc, malheur à vous, vous êtes responsable, parce que finalement, vous faites partie de ceux qui produisent aucun fruit. Mais surtout, je dirais, pour les disciples, il veut aussi rappeler donc nécessité de porter du fruit, mais en même temps, c'est suivi d'un commentaire, l'efficacité de la prière. Donc, pour une prière qui porte du fruit. Et là, il dit bien, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et entre parenthèses, il ne faut pas une grande foi, puisque ailleurs, Jésus parle d'une petite foi comme un petit grain de sève, un petit grain de moutarde, capable de déplacer des montagnes. Donc, le peu de foi que nous avons, Jésus et Dieu demandent qu'on le mette en œuvre pour produire du fruit. Et une prière qui produit du fruit, et là c'est un autre passage dans lequel Jésus le dit, « Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Donc, vous avez la foi, vous demeurez en moi, tout ce que vous demandez, vous l'obtenez. Alors pourquoi on l'obtient? Est-ce qu'on mérite quelque chose? Pourquoi Dieu répondra à nos prières? Pourquoi Dieu accepterait de répondre à nos prières? Pour la bonne raison que toutes nos prières passent par Jésus, qu'on peut dire, et que Jésus donc, peut dire à son Père, « Bon, je le connais, par son nom, il nous appelle par notre nom de la croix. Je le connais, je suis mort pour lui. Et il me connaît, il m'a accepté dans sa vie. » Ça veut dire que la réponse à nos prières, c'est quoi? C'est des cadeaux pour nous. Dieu ne nous doit rien. Mais non, Dieu ne nous doit rien. Dieu nous fait grâce. Dieu nous aime tellement qu'effectivement, vous avez un besoin, vous demandez par Jésus, et Jésus donne. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on est toujours dans cette symbolique. Là, on est Noël, on est les cadeaux, c'est vrai. En Jésus, Dieu nous a fait un cadeau, vous ne pouvez pas imaginer. Là, je ne vais pas détailler. On parle de la vie éternelle, le pardon des péchés, bon, etc. Mais c'est parce qu'on a parlé sapin, et c'est au pied du sapin, c'est là qu'on met les cadeaux. On les accroche au sapin, on les met au pied des cadeaux. Bon. Et nous, les cadeaux de Dieu, on les trouve où?
Pied de la croix.
Mm-hmm. Pied de la croix de Jésus.
Eh oui.
Et je dirais que, en ce sens, la croix de Jésus représente pour nous l'arbre de vie retrouvé. On a lu que les feuilles de l'arbre de vie servaient de remède pour la guérison. Et que dit Ésaïe 53,5? Il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que quand on considère donc, les bénédictions obtenues par la croix de Jésus, la croix est devenue pour nous notre arbre de vie. Ça, c'est important. Effectivement, et on aurait donc décoré, vous voyez, ne plus se décorer qu'un sapin d'ailleurs, quelque part. Bon. C'est une symbolique, mais c'est vrai. Notre arbre de Noël, notre arbre de vie est là, c'est la croix de Jésus. Parce que du côté percé de Jésus, donc, a coulé du sang qui efface nos péchés, a coulé cette eau qui symbolise le Saint-Esprit qui est venu nous donner la vie de Dieu, donc le début de l'Église. Bon. C'est là qu'on est né de nouveau, c'est au pied de la croix de Jésus. N'oublions pas, on est né au pied de la croix de Jésus. Et que cet instrument de supplice est devenu pour nous donc l'arbre de bénédiction. L'arbre de malédiction sur lequel Jésus a accepté de porter notre malédiction est devenu pour nous un arbre de bénédiction. Ça, c'est important quand même de le réaliser parce que c'est vraiment au pied de cette croix qu'on a reçu la vie de Dieu. Les cadeaux de Dieu nous viennent donc par la croix de Jésus. Mais, comme il a été rappelé ce matin aussi, n'oublions pas qu'on se doit, nous aussi, d'y apporter nos cadeaux au pied de la croix, pour lui. Parce que c'est vrai, les cadeaux, c'est dans les deux sens. Je reçois les cadeaux de Dieu, mais je peux aussi, moi, faire des cadeaux à Dieu. Paul écrit, Galates 3,13, « Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Jésus l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Donc, la croix est notre arbre de vie, notre arbre de bénédiction. D'ailleurs, quand on prend la Sainte Cène qu'on rappelle la mort de Jésus, on prend la coupe de bénédiction. Il ne faut pas oublier ça. Et quand Jésus s'est écrié, donc, dans un dernier soupir, tout est accompli, tétélestai, vous savez que le mot grec, ça veut dire Tout est payé, donc plus de dettes à régler. Et c'est aussi parce que Jésus a tout payé, eh bien, que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Eh oui. Hein, et quelque part, bon, c'est cadeau, mais là, ils ont été payés, hein, par Jésus, en fait. Pour nous, c'est gratuit, tout est payé. Donc, Dieu peut pourvoir à tous nos besoins en Jésus. Et souvent, on entend, dans la bouche des gens superstitieux, « Je du bois ». Plus, ils touchent une table, ou alors ils prennent leur tête. Ils prennent une tête de bois, ils touchent la tête. Réflexe superstitieux, hein, mais au départ, c'est que le bois d'où nous vient tout bonheur, toute bénédiction, c'est le bois de la croix. Eh oui, c'est chrétien au départ. C'est devenu, hein, réflexe superstitieux. Comme vous savez, bon, le chiffre 13, hein, bon, hein, Jésus, en son dernier pas avec ses 12 apôtres, il était 13, Jésus est mort. Mais non. Jésus est mort parce qu'il est venu pour mourir pour ça. La numérologie n'a rien à voir. Bon. C'est ça, parce que des fois, vous l'entendez souvent, ça. Saisissez l'occasion, rappelez l'origine chrétienne. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. Oui, c'est pourquoi on dit toucher le bois. Parce que Jésus, par sa croix, hein, nous a obtenu toutes les bénédictions en faveur de Dieu. Donc la croix, elle est indissociable de la crèche. Jésus est venu dans une crèche, là, à Noël, pour mourir sur la croix. Ça, faut pas l'oublier. Et donc, à ce stade, on comprend mieux maintenant ce qui relie la crèche, hein, la croix de Jésus, l'arbre de vie et le sapin de Noël. Bon. Il y a la réalité et le symbole du sapin. Donc, c'est pour ça que devant le sapin de Noël, maintenant, bon, soyons plus réalistes, hein, qu'éprouvent, hein, les enfants, surtout, bon, nous, on a un peu passé le stade, devant le sapin de Noël, hein, ben, il y a de la joie, forcément. Nous, notre joie, elle est là, si elle doit être là. Mais c'est ce qu'on doit éprouver dans la croix de Jésus, nous. C'est la joie d'avoir été libéré, hein, la joie d'être en paix avec Dieu, la joie de savoir que, hein, Dieu nous aime, qu'il a des projets pour nous. Cette joie-là, elle doit être dans notre cœur face à ce que Jésus a fait sur la croix. Et aussi, ben, y a de la lumière plein les yeux devant un sapin de Noël. Hein. Bon, ça scintille, c'est beau, c'est la fête. Bon. Jésus est venu aussi, lui, lumière du monde, pour éclairer nos ténèbres. Et si on parle ténèbres, ça peut être les ténèbres du mensonge. Il est venu apporter la vérité. Ça peut être les ténèbres de l'esclavage, de tous ceux qui sont en prison. Il est venu apporter la liberté. Ça peut être les ténèbres, eh bien, du doute. Il est venu apporter la foi. Jésus est venu chasser nos ténèbres. En lui était la vie, cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est Jean 1. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, Dieu nous l'a révélé. Ça veut dire que grâce à Jésus, on a maintenant une claire révélation de qui est Dieu. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Et on entend parfois des gens, vous l'avez sûrement entendu aussi, qui vous disent, de façon un peu ironique, vous savez, de toute façon, ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas, jamais personne n'est revenu nous le dire. On l'a entendu souvent ça. C'est un peu facile comme réflexion. Je suis désolé, moi je dis non, erreur. Quelqu'un est venu nous en parler. Jésus est venu nous parler, hein, de ce qui se passe. Ah oui, parce qu'on ne voit pas. Hein. Donc à tous ceux qui n'ont pas dans le cœur cette joie qu'éprouvent les enfants devant un sapin, à tous ceux qui n'ont pas cette lumière dans le regard qu'ont les enfants devant un sapin illuminé, hein, j'ai envie de dire, ben, soyons nous, hein, les témoins. Effectivement, vivant, elle rappelle de l'amour de Dieu manifestant Jésus. On doit être ce signe de Dieu. Et là, quand je parle de signe, je vais encore commenter une chose. En haut du sapin, il y a l'étoile. Je la vois d'ici, là. On a mis une étoile là-bas. Bon. Pourquoi cette étoile? Vous savez tous, on la voit dans les rues, partout l'étoile est liée. Sur toutes les cartes postales, toutes les décorations, l'étoile de Noël. C'est l'étoile qui a conduit les mages jusqu'à Jésus. Les mages, c'était des astronomes qui observaient les astres tous les jours. Bon. Un jour, ils ont vu une étoile qui n'était pas dans leur configuration normale. Ça les a intrigués. Bon. Ils connaissaient les Écritures, notamment ce passage nombre 24, 17, qui dit un astre qui sort de Jacob. Et dans les textes orientaux, quand il était fait mention d'astre, c'était référence à la royauté déjà. Ils n'en savaient peut-être pas plus, ils se sont mis en route, et c'est là qu'arrivait à Jérusalem, donc ils se sont renseignés, et on leur lu ce passage qui se trouvait en Michée 5.1. C'est les prêtres de Jérusalem qui, qui ont sorti ce passage. « Toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Donc, ils ont eu ce lieu précis. Ils quittent Jérusalem et l'étoile réapparaît. Il est mis, donc, l'étoile qu'ils avaient vue se lever, les guida, elle parvint dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Donc, Dieu a manifesté un signe, mais dans la vie du quotidien, eux étaient astronomes. Dieu a pris une étoile qui ne devait pas être là. Il les interpellait par une étoile. Sachez que Dieu, chacun dans notre quotidien, hein, il veut se révéler à nous, et surtout encore à plus forte raison ceux qui ne le connaissent pas, mais par un signe qui va les obliger, d'une part, ou à lever la tête, ou à orienter leur pensée vers le ciel, la terre, ou encore à voir la main de Dieu. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu veut que chacun, dans son quotidien, face aux problèmes, toutes les questions qu'il peut se poser, Dieu veut montrer qu'il est là. Et ça, c'est quand même important de savoir, parce qu'en fait, on a un Dieu qui ne cesse de faire signe au travers des circonstances qui sont les nôtres, chacun différemment, pour qu'on se mette en route pour aller à sa rencontre. Bon, j'en ai là ce matin, c'est parce qu'on pourrait témoigner du signe que Dieu nous a fait, mais c'est valable pour tout le monde. Et ce Dieu, donc, qui a créé tout ce qui existe, y compris les étoiles, et qui s'est servi des étoiles, et il a voulu, il est tellement lointain qu'on pourrait dire, on ne peut pas le connaître, non, il s'est fait tout proche de nous. Et il s'est fait proche parce qu'il a voulu s'incarner. Tout le monde connaît le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce mystère, il continue tous les jours. C'est que Dieu continue de s'incarner maintenant dans chacun de ceux qui acceptent sa vie en lui. Ben oui. Et ça, c'est quand même important de le savoir. Parce que là, je parle à des chrétiens qui ont précisément un témoignage à donner. Et donc le mystère continue, parce que quand on a la vie de Jésus, on devient membre de son corps. Et en l'occurrence, on fait partie de l'Église. Donc Dieu veut naître dans le cœur de chacun, il veut le faire naître à sa vie, et vous savez que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître veut dire naître avec, comme avec, connaître. On ne connaît bien que celui dont on est né ou à qui on transmet la vie. La mère connaît bien son enfant, l'enfant connaît bien la mère. Il y a une relation physique, charnelle, qui fait que, Dieu, de la même façon, veut qu'on le connaisse intimement. Et c'est pour ça que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc celui qui connaît Dieu manifesté en Jésus, il entre dans cette vie qui finira pas, mais qui est une vie éternelle, mais qui n'est pas réservée uniquement à l'au-delà, elle commence maintenant. Eh oui. Pour l'instant, on n'a pas été propulsé, on est toujours dans notre corps physique, mais la vie, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et la relation intime et personnelle, elle doit être établie et entretenue. Bon. Oh. Éveille-toi, mon âme. J'espère que je n'ai pas tous endormi. Si c'est le cas, éveillez-vous, là. Réveillez-vous. Alors oubliez tout, mais écoutez maintenant. Bon. Soyons dans la joie parce que Dieu a des merveilleux projets pour nous. Bon. Que cette joie nous donne des airs de fête. Que ces airs de fête illuminent vos visages. Et que dans vos regards, on puisse voir se refléter cette vie de Jésus. Cette vie de Jésus. Bon. Qui est reçue de l'arbre de vie, notamment. Pour qu'on devienne une plantation à la gloire de l'Éternel. Que j'ai donné ce titre-là au message, mais on va peut-être y revenir. Je ne l'ai pas inventé. Prenez avec moi Ésaïe 61. Ça concerne le serviteur de l'Éternel. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier l'année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bon, je dis, on ne parle pas de sapin, mais c'est térébin. Hein. C'est quand même c'est un résineux. à feuilles persistantes. Bon, on fait une huile de térébenthine d'ailleurs, hein, qui est très bonne. Bon. Donc, devenons une plantation à l'Éternel. Ce passage qui s'applique prophétiquement déjà aux serviteurs que Jésus va reprendre à son compte, puisque quand il arrive dans une synagogue, hein, on lui donne ce passage, il va le lire, il va dire « Bon, maintenant ces choses sont accomplies ». Mais on se doit, nous aussi, en tant que chrétiens, parce que je crois qu'on est quand même des chrétiens, donc on a reçu l'onction, nous aussi. Et cette onction du Saint-Esprit, elle doit être sur nous. Et il nous appartient aussi à nous, ou plus précisément le Saint-Esprit à travers nous. Eh bien, il veut aussi, oui, consoler, libérer, guérir, donner un diadème, comme on l'a lu au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle des térébintes de la justice, une plantation à la gloire de l'Éternel. Donc devenons cette plantation à la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que, bon, ça ne veut pas dire quand vous saluez les frères et sœurs, salut vieille branche, comment tu vas, hein. Non, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Parce qu'on n'est pas des végétaux. Hein. Mais c'est au sens spirituel. Hein. On est là, Dieu nous enracine pour, effectivement, qu'on produise ce témoignage, qu'on produise ses fruits. Donc Noël, en fait c'est un message sur Noël que je vous donne, vous avez quand même compris, hein. Bon. La période. Hein. Bon. Venu Jésus, annoncé depuis longtemps, dès la Genèse déjà, bon. Rappelé par les prophètes, qui a eu lieu il y a 2000 ans, bon, c'est bien. Mais si on parle de la vue de Jésus, si on ne parle pas qu'il va revenir, il manque quand même un maillon important là. Il doit revenir chercher son Église. Elle est où l'Église ? C'est nous, hein. Bon. Et comment il s'attend à la trouver l'Église? Eh bien, Éphésiens 5, 27, hein, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, irréprochable. Ils ont des épouses, hein. N'oubliez pas. Des fois, on l'oublierait. Donc, on l'attend, le retour de Jésus. Soyons prêts. Soyons prêts. Et laissons le Saint-Esprit ce matin nous interpeller. Église de Jésus. Bon, l'Église des feux, voilà. Je pose les questions, mais c'est Saint-Esprit qui vous les pose. Là. Où est ton témoignage? Comment brille ta lumière? Est-ce que tu marches dans l'amour et la vérité? Dans quoi tu planches tes racines? De quelle façon tu nourris ta foi? Quels fruits portes-tu? Quelle nourriture partages-tu autour de toi? Quel est ton témoignage? Bon, on peut rajouter des questions par rapport à toute cette symbolique là que j'ai essayé de vous développer. Là. Et chacun doit y répondre. Parce que c'est la question de poser à chacun. Et l'occasion nous est donnée encore. Vous voyez, hein, c'était pas, je ne savais pas quand j'ai préparé donc, ce message. Je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation prévue dans le cadre de l'évangélisation, là, ce street life. Là. Mais ça tombe bien, parce que c'est une occasion, cet après-midi, pour beaucoup, eh bien, de donner le témoignage, hein, de cette vie qui est en nous, de le manifester. Hein. Parce qu'on va montrer de façon visible de la joie, j'espère qu'il y a de la joie, bon. notre foi en qui est Dieu, qui est Jésus, hein. Tout ce qu'on peut partager avec les uns les autres, hein. Les paroles qu'on pourra dire, c'est une parole douce et comme un arbre de vie, dit la Bible. Donc, en fait, on a à transmettre cette vie qui est en nous, on a à la transmettre. Et c'est pour ça, si vous êtes parti. Cette église dans ce quartier, dites-vous bien que Dieu, il veut quand même qu'on prenne racine, il veut qu'on manifeste quand même une vie qui est la sienne et qu'on porte du fruit. Il veut qu'on soit cette plantation à la gloire de l'Éternel. Et je dirais que ce temps de Noël, c'est le temps idéal pour rappeler autour de nous. Et c'est tellement plus facile. Les gens ne sont pas étonnés que vous leur parlez de Jésus, hein, la naissance de Noël. Ils ne sont pas étonnés. Ou ceux qui sont donnés, ben, ils comprennent. Hein. Donc que ce soit dans le courrier qu'on peut échanger, que ce soit dans les vœux qu'on va donner, tout ça. Et je crois qu'on est des chrétiens, faut pas oublier. On est heureux de l'être, et on le montre. C'est ceux qui nous entourent, ils ont besoin de l'entendre, de le voir pour y goûter à leur tour. Hein. Donc soyons ces messagers de bonnes nouvelles. Hein. Il est écrit, vous savez, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Et... On pourrait paraphraser qu'elles sont belles les branches greffées sur l'arbre de vie. et porteuse des fruits du salut. Autrement dit, cette plantation à la gloire de Dieu. Donc, eh bien, soyons conscients que Jésus est venu, nos vies ont été changées, on s'en réjouit, mais n'oublions pas non plus que beaucoup ont besoin de savoir, et ce serait quand même dommage que beaucoup de gens restent un peu dans leurs ténèbres, dans leur prison, quelque part, dans tous les liens avec le mal, pour la bonne raison que d'une part, ou on n'aurait pas parlé, ou qu'on n'aurait pas su les convaincre de l'efficacité de ce que nous vivons. Et ça, ce serait quand même dommage. Vous avez entendu ? Bon. J'ai l'impression que les propos sont graves. J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde. Ah bon ? En tout cas, ben, que Saint-Esprit vous réveille, on va demander à Dieu de réveiller, qu'on se laisse interpeller. C'est important quand même. Hein. C'est des choses, on sait, hein, on hésite parfois à le dire, on ne le dit pas assez. Bon. On ne le dit pas assez fort, je ne sais pas, mais hein, je crois que les temps sont courts, on n'a pas honte à avoir. Hein. Surtout qu'il y va vraiment du salut de beaucoup de gens. Seigneur, eh bien, on veut encore te prier ce matin. Que donne-nous d'être sensibles à toutes ces situations dans lesquelles nous nous trouvons. Situations, Seigneur, eh bien, dans lesquelles on est en contact avec des gens qui ne te connaissent pas, ou qui te connaissent mal, des gens qui sont en proie vraiment à difficultés de la vie, des personnes qui, hein, pour qui la vie n'a plus de sens, parfois qui sont découragées, Seigneur, et, hein, qui sont dans un monde enténébré, qui crient quelque part. Hein, et Seigneur, tu les mets à nos côtés et tu nous donnes l'occasion ben, de rappeler à ces personnes que tu es venu, que la vie peut changer et tu veux que nous utiliser, Seigneur, pour faire passer le message. Et notre prière, c'est vraiment, Seigneur, garde de nous de ne pas rater ces occasions. Mais qu'au contraire, qu'on puisse en profiter, Seigneur, pour eh bien, être ces témoins de ce que tu es venu faire, Seigneur. On a décidé de te suivre, on est devenus des disciples, et tu as donné cet ordre, ben soyez mes témoins, Seigneur, et on va être ces témoins, Seigneur. Merci de nous renouveler dans les dispositions de notre cœur, Seigneur, parfois c'est pas toujours évident, c'est vrai, ça suppose qu'on ait beaucoup de disponibilité, de consécration, Seigneur, faut se donner les moyens, c'est pas toujours évident, mais on te prie, Saint-Esprit, ben, aide chacun, et que, Seigneur, on puisse se réjouir, pas seulement que tu sois venu nous sauver, mais Seigneur, que tu puisses continuer à sauver tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, ça t'appartient, mais tu veux aussi nous y associer, Seigneur. Et je te prie encore, Seigneur, pour cet après-midi, pour vraiment que... Eh bien, c'est une occasion aussi que nous avons en tant qu'Église, eh bien, d'apporter un témoignage, eh bien, Seigneur, que nous saisissions cette occasion et bénis chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions apporter notre pierre, Seigneur, à ce témoignage, Seigneur. On te bénit, on te rend grâce, Seigneur, et que ces fêtes soient vraiment, Seigneur, eh bien, des fêtes qui te glorifient, Seigneur. Non on est dans un monde, Seigneur, qui veut se réjouir, on veut se réjouir aussi, mais pour des raisons, Seigneur, que le monde ignore et on veut leur faire connaître, Seigneur. On te bénit, Seigneur, et on te rend grâce. Au nom de Dieu. Amen. 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 Bien. Eh bien, je crois que on sait ce qu'il faut faire. Hein. Je vous souhaite... Non. On ne sera pas là malheureusement. On va vous souhaiter à tous une bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël. On sera content de vous retrouver. Mais vraiment, donc, vivons. Hein, vivons cette réalité de notre salut et partageons autour de nous. Dans la joie.